Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette qui est là, je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M qui débute à l'instant. Cette fin de semaine et ce, dès vendredi, aura lieu la 18e édition de l'Expo Manger Santé et Vivre Vert, qui est une grande rencontre pour les gourmands, bien sûr, tous les curieux de nouvelles tendances et bien sûr tous ceux qui sont intéressés par une alimentation plus saine et tout ce qui touche l'environnement, le mieux-être, la santé. Et afin de mieux nous diriger à travers ce grand événement, la nutritionniste et auteure Catherine Lefebvre sera là en deuxième partie d'émission pour nous faire part de ses découvertes et incontournables. D'abord, la pilule contraceptive qui existe, en fait, qui a été découverte il y a près de 60 ans, légalisée il y a près de 50 ans, a contribué à travers toutes les années, plusieurs années, à l'émancipation autant sexuelle que sociale de la femme. Et depuis quelques années, on entend davantage parler de la prise de la pilule contraceptive en continu, qui permet aux femmes soit de réduire la fréquence des menstruations ou encore de les faire complètement disparaître. Est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des risques à cette prise-là en continu? Est-ce que c'est seulement une mode passagère? Ce sont les questions que je pose à l'instant au Dr Marc Steben, directeur médical de la Clinique A. Bonjour, Dr Steben.
Oui, bonjour, Marianne.
Bon, la pilule contraceptive, comme on la connaît, en tout cas du moins comme moi, je la connais, c'est sur une période de 28 jours, donc souvent 21 jours où on prend la pilule et un 7 jours de pause, soit placebo ou arrêt total. Pourquoi au départ on a pensé la pilule de cette façon-là, sur cette fréquence-là?
Bien, c'est tout simplement parce que si on se replace dans le temps, la pilule est arrivée encore dans le temps où l'Église avait un rôle important à jouer sur la contraception. Donc, pour l'Église, il y avait l'abstinence et il y avait compter ses jours. Mm-hmm. Et lorsqu'on est arrivé avec les pilules contraceptives, on voulait être sûr que les femmes ne se placent pas en danger vis-à-vis la pratique de leur religion. Et on a trouvé ça, très simplement, le cycle le plus fréquent lorsque la pilule est arrivée sur le marché, c'était 28 jours. Et c'est l'unique raison pourquoi ces 28 jours, c'était le cycle le plus fréquent.
Mm-hmm.
Et comme ça représentait la normalité, on pensait que l'Église s'érigerait moins contre la pilule en reproduisant le cycle le plus fréquent des femmes.
Est-ce que cette période-là de 7 jours où il y a un arrêt total de la prise de la pilule ou encore un effet placebo est essentielle? Pourquoi on a imaginé ce 7 jours-là de pause?
Tout simplement de façon arbitraire, on pensait, puis il ne faut pas oublier que la pilule, lorsqu'elle est arrivée sur le marché, on avait des patientes qui avaient des soutiens-gorge pour les semaines qui prenaient la pilule, puis la semaine qui ne prenait pas la pilule. Les femmes avaient tellement d'effets secondaires parce qu'on avait des pilules qui étaient à au moins 3 fois plus d'estrogène que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour les pilules les plus fortes que l'on a. Dans le temps, on pensait qu'il fallait donner des hormones pour virtuellement reproduire les symptômes de la grossesse pour que ça soit efficace. Et avec le temps, on s'est aperçu qu'on pouvait baisser de façon très importante la quantité d'estrogène dans les pilules.
Donc, on pourrait dire qu'à travers toutes ces années, là, près de 50 ans, comme je le disais tout à l'heure, la pilule s'est améliorée beaucoup.
Oui, mais c'est pas. Je pense pas que c'est honnête de dire améliorer. Elle s'est perfectionnée.
Ouais.
Faut penser que lorsqu'on est arrivé avec les pilules, c'était quand même quelque chose de révolutionnaire. On parle de la révolution sexuelle, la révolution tranquille. On voyait à ce moment-là beaucoup de phénomènes sociaux, la libération de la femme, libération de la sexualité. Et puis, c'est sûr qu'on a voulu être sûr que la pilule marchait bien et a fallu faire essai-erreur et tranquillement, pas vite, on arrive aux pilules qu'on a maintenant en 2015, qui sont des améliorations, des prototypes qui ont été lancés dans les années 60.
Est-ce qu'il y a des facteurs de risque associés à la prise de la pilule? Bon, on le sait, là, évidemment, j'y suis plus sensible. Ayant plus de 30 ans, plus on avance en âge, plus on peut avoir des inquiétudes ou des interpellations par rapport à la prise de la pilule contraceptive.
Oui, bien c'est sûr, il y a le facteur qui est inéluctable, c'est l'âge. Et puis, effectivement, plus on vieillit, plus nos artères peuvent avoir durci et plus on est à risque à ce moment-là d'avoir des complications au point de vue cardiaque, ou vasculaire. Donc, à partir de 30 ans, surtout si on est fumeuse, surtout si on est obèse, il y a plus de risques. Il y a aussi toute la question de l'histoire familiale. Mm-hmm. Si quelqu'un semble avoir des préoccupations pour les maladies cardiovasculaires ou les AVC dans sa famille, à partir de 30 ans, on va être plus prudent. Lorsqu'on est fumeuse, c'est clair, là, c'est un facteur de risque qui, combiné avec la pilule, augmente de façon importante les risques au niveau des maladies cardiovasculaires. Et toutes ces maladies-là, on parle essentiellement des maladies qui affectent les artères. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est une combinaison. La majorité des pilules, c'est une combinaison d'un progestatif et d'un œstrogène. Et c'est l'œstrogène qui, lui, apporte un élément particulier, c'est la coagulation du sang et ça donne des thromboses, ça peut donner des embolies et ça, c'est du côté veineux. Donc, ça peut affecter la circulation du côté veineux, surtout des caillots et l'embolie pulmonaire, puis au point de vue cardiovasculaire, surtout pour les fumeuses, les plus de 30 ans et les personnes obèses.
Donc, si on a des antécédents familiaux, par exemple d'AVC, on pourrait se tourner davantage vers une pilule que de progestérone?
Si on ne fume pas, si on a un cholestérol qui est normal, on est en bonne santé, etc., pas nécessairement. Okay. Nous, on a des patientes dans la quarantaine qui prennent des pilules et puis on est tout à fait à l'aise de la prescrire. Par contre, on a des filles de 30 ans qui vont fumer, qui ont un indice de masse corporelle plus de 30. On va leur demander beaucoup plus rapidement d'aller vers une stérilisation lorsqu'il n'y a pas de projet de grossesse ou d'un stérilet qui peut être avec des hormones, mais sans estrogène ou des stérilets avec cuivre ou la contraception qui est seulement avec des progestatifs. Donc, ça n'influence pas la coagulation du sang.
Mm-hmm. Docteur Steben, est-ce qu'il est vrai que l'on peut associer cancer du sein ou risque de cancer du sein avec la prise de la pilule contraceptive?
Oui, on a effectivement maintenant, on a tellement de femmes qui ont pris la pilule sur des grandes périodes, on est capable de voir qu'il y a un petit risque accru qui va avec la durée de la prise de la pilule. Mais lorsqu'on regarde les autres facteurs de risque, on sait que l'âge, c'est peut-être un facteur de risque aussi important que la durée de la prise de la pilule. L'histoire familiale, c'est sûr, c'en est un. Mais on regarde aussi l'intensité de ce risque-là. C'est à peu près équivalent pour une femme qui prend quelques consommations d'alcool par semaine. Donc, on le sait, si on prend la pilule depuis longtemps, on fait ses suivis avec son médecin, son infirmière, puis on regarde qu'est-ce qui se passe. Puis, un petit peu plus tard, on peut changer pour une méthode qui ne comprend pas d'estrogène à ce moment-là, qui pourrait être moins dangereux pour le cancer du sein. Mais encore une fois, ce risque-là, c'est un risque qui est acceptable pour la très grande majorité des femmes. C'est un risque qui est minimal et qui est comparable à d'autres facteurs qui sont associés avec notre rythme de vie.
Ouais. Et ce que l'on constate, c'est que les habitudes de vie pèsent aussi beaucoup dans la balance.
Oui. Puis on regarde fumeuse essentiellement et obésité, c'est deux facteurs de risque qui sont souvent négligés lorsqu'on fait l'évaluation des risques associés à la pilule.
Bon, on a parlé des risques liés à la pilule contraceptive, mais il y a aussi, et peut-être qu'on le mentionne moins souvent, des facteurs protecteurs.
Oui. Une des choses les plus importantes, c'est de réaliser que des femmes qui sont menstruées 5 jours et plus avec la pilule, c'est quand même relativement rare. Alors que chez les femmes qui ne prennent pas la pilule, c'est quand même beaucoup plus fréquent. Donc, il y a la protection contre l'anémie. On regarde aussi une majorité de patientes qui prennent la pilule vont avoir beaucoup moins de syndromes prémenstruels ou n'auront pas de syndromes prémenstruels. Protection au niveau de l'acné, de la pilosité. On regarde aussi les protections contre l'endométriose ou le soulagement de l'endométriose, qui est un facteur de risque pour l'infertilité. Mais aussi, on a des choses comme l'augmentation de la qualité de vie. La majorité des femmes qui se voient proposer de ne pas avoir de menstruation voient que la quantité des activités qu'elles peuvent mm-hmm. faire lorsqu'elles sont pas menstruées augmente. Et pas négligeable aussi, on a aussi beaucoup de femmes qui sont contentes. Il y a moins d'impact des menstruations sur leur sexualité. Certaines femmes ne veulent pas avoir de relations de pénétration lors des menstruations. Et des fois, on a comme des gens qui travaillent à l'extérieur, qui voient leur conjoint des fois seulement la fin de semaine, ou des étudiants qui voyagent beaucoup, des gens aussi qui sont des gens d'affaires qui voyagent à travers le monde. Donc, beaucoup de femmes aiment bien le fait qu'avec la pilule en continu, leur sexualité n'est pas influencée par les menstruations.
Dr Stében, aujourd'hui, je voulais également aborder la prise de la pilule en continu qui est, à mon sens, et vous me corrigerez si je me trompe, bien sûr, est un phénomène plus nouveau. En tout cas, du moins, on en entend davantage parler. Est-ce que c'est une nouvelle mode?
Pour commencer, c'est pas une nouvelle mode. Dans quelques années, on va dire que la prendre aux 28 jours, c'est pas une vieille mode, alors que probablement la prendre en continu a plus de réalité. Ça fait longtemps que certaines femmes la prenaient en continu, mais on le faisait surtout pour des femmes qui avaient beaucoup de problèmes, et entre autres, comme les femmes qui avaient l'endométriose, des femmes qui avaient des hémorragies menstruelles dès qu'elles arrêtaient la pilule. Il y a des femmes aussi qui avaient des maux de tête très importants lorsqu'elles arrêtaient la pilule. Donc, ces femmes-là, ça faisait longtemps qu'on les mettait en pilule en continu. Donc, on a commencé surtout par les femmes qui avaient des problèmes médicaux. Puis, beaucoup de femmes étaient tellement bien qu'à un moment donné, certaines femmes la prenaient en continu elles allaient en camping. On le voyait souvent avec des femmes sportives lors de compétitions ou de sorties. Elles prenaient deux paquets de suite. Puis, on voyait que les femmes nous rapportaient qu'il n'y avait absolument pas de problème. Et il y a eu des études sérieuses qui ont été faites. Et au début, on avait la saisonnale, donc on était menstrué aux saisons. Et puis maintenant, on voit pas pourquoi qu'on peut pas le prendre à l'année longue. Donc, la majorité des femmes auxquelles on propose de ne pas être menstruée aiment bien cette idée. Mais c'est pas tout le monde qui peut la prendre en continu sans problème.
Non, il y a pour des femmes, c'est contre-indiqué, donc?
Non, il y a certaines femmes que c'est très difficile de leur trouver une pilule qu'ils vont pouvoir prendre en continu sans avoir du spotting, des petits saignements de temps en temps. Donc, il y a des femmes qui doivent la prendre 21 jours, arrêter 16 jours. Dès qu'on essaie de dépasser 21 jours en continu, elles commencent à saigner. Et ça, ces segments-là sont un petit peu désagréables parce que ces segments-là sont imprévisibles. Les femmes qui arrêtent la pilule, ils le savent. Le lendemain, je vais être menstruée. Donc, vont planifier en conséquence, vont partir au travail ou à l'école avec tout ce qui est nécessaire pour leur hygiène menstruelle. Mais lorsque c'est sans signe annonciateur, ça, c'est très désagréable. Les patients qui se ramassent au bureau ou qui ont des réunions importantes, puis là, tout d'un coup, s'aperçoivent qu'ils sont menstrués puis qu'ils n'avaient pas du tout prévu être menstrués. Donc, beaucoup de femmes le peuvent, certaines ne le peuvent pas.
Est-ce que on peut dire, là, s'il est si aisé de réduire et même d'éliminer complètement les menstruations, Dr Stében, que le rôle des menstruations est plus ou moins important pour une femme qui ne désire pas d'enfant?
Bien, exactement. Puis même techniquement, quand une femme prend la pilule, on n'appelle pas ça des menstruations scientifiquement, c'est plutôt des segments de privation. On arrête la pilule, l'effet des hormones disparaît, l'effet de la peau de l'utérus qui menstrue est privé de ces hormones et elle saigne. Il faut savoir qu'une menstruation naturelle, c'est tout simplement lorsque le corps n'a pas permis une fécondation et l'installation d'un œuf dans l'utérus. Le corps se débarrasse de cette peau pour en faire une autre suite à l'ovulation le mois suivant. Donc, quand les femmes menstruent, souvent, beaucoup de femmes nous disent « Ah, quand je suis menstruée, j'ai moins mal au sein, je suis décongestionnée, je me sens moins enflée, mon esprit s'éclaircit. » Des fois, quand il y a le syndrome prémenstruel, certaines femmes ont beaucoup de problèmes de sommeil ou de concentration au travail. Et donc, on a longtemps attribué une fonction de purification à la menstruation, alors que tout simplement, c'était la disparition de l'effet des hormones sur le système de la femme qui se faisait, et c'était pas des toxines qu'on éliminait dans les menstruations, c'était tout simplement l'arrêt de la conséquence des hormones sur le système de la femme.
Et au même titre, lorsque l'on prend la pilule contraceptive, bon, il n'y a pas vraiment de menstruation, pas vraiment d'ovulation non plus, c'est ça?
La majorité des pilules, effectivement, sont des anovulants. Mais on sait que maintenant, les faibles doses et les mini-doses sont pas nécessairement anovulantes. On sait que les pilules anticonceptionnelles va avoir trois grands effets principaux. Premièrement, le mucus du col de l'utérus va changer. Souvent, les femmes vont nous dire « mes sécrétions sont beaucoup plus gluantes, sont collantes ». Et ça, c'est l'effet, dans le col de l'utérus, on rend le col très difficile à naviguer pour les spermatozoïdes. Ça change aussi la qualité du dedans de l'utérus, ce qui fait qu'un œuf implanté aurait beaucoup de difficultés à survivre ou même à s'implanter. Et une bonne proportion de ces pilules-là sont aussi anovulantes. Donc, s'il n'y a pas d'ovule, la femme ne peut pas être fécondée.
En terminant, Dr. Steben, si l'on souhaite prendre la pilule en continu, j'imagine qu'il est préférable d'en glisser un petit mot à son médecin?
On peut l'en glisser surtout parce que certaines femmes ont des pilules qui sont un petit peu moins probables d'être efficaces en continu que d'autres.
Okay.
Donc, on a dans les pilules les plus fréquentes, celles qu'on appelle les pilules combinées, où est-ce qu'il y a un œstrogène et un progestatif, on a des pilules qui sont toutes la même sorte tout le mois, donc des monophasiques, et donc il n'y a pas de fluctuation d'hormones tout le mois. Ces pilules-là sont plus faciles à être prises en continu sans donner de menstruation. Après ça, il y a des triphasiques, donc dans le mois, les hormones vont changer trois fois de dosage. Et c'est sûr, lorsqu'on a ces fluctuations d'hormones-là, souvent les patientes en continu vont avoir des problèmes de saignotement. Donc, en général, on a moins de problèmes avec des monophasiques que des triphasiques. Bien que certaines femmes ont des triphasiques, les prennent en continu, qui n'ont absolument pas de problème.
Mais pour un mois, par exemple, on part dans le sud la semaine prochaine, on peut simplement glisser un petit mot à son pharmacien. Pour un mois, ça peut être OK. Puis par la suite, on en parle au médecin plus tard.
C'est ça. Oui. Moi, je suggère aux patients de l'avoir utilisé avant de partir en vacances.
Mm-hmm.
Parce que ça ne marche pas.
Ouais,
puis là,
ben oui,
avec
c'est vrai.
Les menstruations, toutes les vacances, c'est un petit peu plate. Parce que c'est un petit peu imprévisible quelle femme va pouvoir le prendre sans aucun problème. Puis les femmes qui vont avoir des problèmes de saignotement. Donc, il faudrait le pratiquer au moins une fois avant de partir.
Et bien sûr, ça ne peut pas nuire à notre fécondité si éventuellement on souhaite faire des bébés.
Non, c'est très important de réaliser que les femmes qui ont de la difficulté... On regarde, il y a un nombre important de femmes qui ont pris des pilules, pas du tout parce qu'elles avaient besoin de contraception, mais parce qu'elles avaient des problèmes de cycle irrégulier. Et ces femmes-là, habituellement, lorsqu'elles arrêtent de prendre des pilules, le cycle redevient irrégulier. Tout simplement, c'est leur cycle menstruel à elles, c'est pas l'effet de la pilule.
Mm-hmm.
Ou des fois, on s'aperçoit que c'est des choses qui sont arrivées parce que le corps de la femme a vieilli. Et puis, on sait qu'à 30 ans, 35 ans, c'est pas si rare que ça d'avoir des femmes qui ont des problèmes d'hypothyroïdie qui doivent prendre des pilules pour remplacer la glande thyroïde.
Mm-hmm.
Et puis donc, c'est pas parce que la femme a pris les pilules, c'est plutôt parce que l'hypothyroïdie s'est développée. Donc, la pilule protège, mais dès qu'on l'arrête, techniquement, la femme peut tomber enceinte. On demande aux femmes d'attendre un cycle naturel avant d'essayer de tomber enceinte, tout simplement pour être sûr de la date de la menstruation naturelle, donc de l'ovulation, pour nous permettre de dater la grossesse, puis être sûr que la femme ne se ramasse pas avec une grossesse qui dure trop longtemps ou qui n'a pas duré assez longtemps.
Mm-hmm. Découverte en 1956, cette pilule contraceptive, mais toujours en évolution. Merci beaucoup, Marc Steben. Vous êtes directeur médical de la Clinique A. Toujours un plaisir de vous entendre. Clinique A.ca. À très bientôt, Marc.
Merci. À la prochaine.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
Bonjour Catherine Lefebvre.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste auteur et là pour nous parler de l'expo Manger Santé et Vivre Vert qui débute ce vendredi 20 mars. Vous êtes une habituée, vous. Vous y allez depuis longtemps.
Oui, je suis une... C'est la 18e édition cette année, mais ça doit faire au moins 10 ans que je vais à l'expo Manger Santé pour découvrir, en fait, des nouveaux produits. Des fois, je vais assister à des conférences, mais c'est vraiment les produits, moi, qui m'intéressent. Puis aller discuter avec les gens, en fait, mm-hmm. les producteurs ou... Donc, voilà, j'adore ça.
Donc, vous avez pu voir un petit peu l'évolution de
oui.
cette expo-là.
Effectivement, moi, j'y allais. Ma mère est beaucoup dans le domaine de la santé. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvée en nutrition. Donc, elle connaît beaucoup de gens dans le milieu. Elle connaît très bien René Frappier, tout ça. Donc, on y allait ensemble. Et effectivement, il y a eu une belle évolution, non seulement au niveau du nombre de visiteurs qui a vraiment augmenté au fil du temps, mais aussi des produits donc qui étaient très nichés, si on peut dire, ou des produits qu'on retrouvait seulement dans les magasins d'aliments naturels. Et là, petit à petit, bon, il y a aussi le fait que les supermarchés ont vraiment développé ou agrandi, élargi leur offre alimentaire dans le bio et sans gluten et tout ça. Donc, c'est des produits qu'on retrouve un peu partout. Mm-hmm. Tu sais, oui, il y a encore des produits peut-être un petit peu plus...
marginaux
ouais,
ou bon, difficiles à trouver.
Mais... Oui, qui vont encore rester dans la gamme des Rachel Berry, Tau et Avril. Mais il y a quand même beaucoup de produits qu'on peut retrouver dans les supermarchés ou encore dans les marchés publics l'été.
Et il y a aussi cette soif grandissante des Québécois de découvrir, de manger mieux, d'ouvrir un petit peu les horizons. Ça a dû contribuer à la popularité puis à l'effervescence là, autour de cette expo-là.
Oui, puis c'est quand même assez intéressant de voir... quand on regarde les visiteurs à l'expo Manger Santé, il y a aussi... Bon, il y a des gens de tous les âges. Vraiment des gens qu'on... Peut-être il y a 10 ans, on ne se serait pas attendu de voir ce profil de gens. Ouais. Là. Puis, ça me fait, je trouve ça, il y a beaucoup de mauvais produits encore sur le marché, mais il y a de très bonnes choses qui se font. Puis, je trouve ça intéressant, ce genre d'événement-là, pour prendre conscience de toute l'offre alimentaire qui s'améliore. Parce qu'il n'y a pas juste de la malbouffe là, qui circule. Il y a quand même des très bons produits. Puis c'est ça qu'on peut découvrir, qu'on peut goûter aussi. Parce que des fois, si on ne connaît pas, on ne sait pas trop. Ah, de la poudre de maca, je fais quoi avec ça? Ça goûte quoi? Bon, mais là, on peut y goûter. Puis on peut discuter avec les producteurs ou avec les gens qui ont développé ces produits-là pour en savoir plus. Mmh. Donc,
on surveille quoi, Catherine, en 2015? Là, vous devez déjà, même si c'est pas débuté encore, vous devez déjà avoir un petit aperçu.
Oui, j'ai goûté à quelques petits trucs. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de sans gluten. Là. C'est sûr que ça, au niveau de l'offre, c'est en constante. On développe toujours de nouveaux produits sans gluten. C'est intéressant. Par exemple, la boulangerie Inewa qui a développé son... T'sais, qui est quand même connue pour le côté artisanal. Donc, des pains que... Quand on regarde la liste d'ingrédients... Moi, je trouve ça intéressant, ces produits-là. Quand on regarde la liste d'ingrédients, si je faisais du pain à la maison, je mettrais à peu près les mêmes ingrédients. Donc, ils ont toujours gardé cette philosophie-là dans leurs produits. Et là, sont allés vers le sans gluten, donc un pain à base de quinoa et l'autre un pain au raisin, là, plus brioché. Donc sans gluten, mais tablette, donc pas congelé et qui, franchement, a une texture assez agréable. Moi, j'ai heureusement pas de problème avec le gluten, je le digère quand même assez bien. Mais donc, pour les gens qui ont une intolérance, c'est intéressant comme produit. Toujours dans le sans gluten, mais que finalement, bon, on s'en fout un peu, là, le quinoa, tout ça, avec Gogo Quinoa qui ont un nouveau burger. Donc, on connaît bien les produits de Gogo Quinoa, que, encore une fois, une liste d'ingrédients propres, que je peux dire. T'sais, on dit en anglais clean label. Oui. Bon, ben, c'est...
On pourrait dire simple, peut-être.
Ouais, oui, c'est pas des ingrédients qu'on reconnaît, des ingrédients qu'on utiliserait si on faisait le mélange à la maison. Bon, là, leur nouveau produit, c'est des burgers, mais sinon, c'est des mélanges de céréales avec des épices, des herbes. on utiliserait ça à la maison de toute façon. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a aussi, bon, j'anime une conférence avec Salade Express samedi à 13h45, si ça vous intéresse.
Sur les légumes.
Sur les légumes, donc évidemment, oui, avec Salade Express. Donc on vous présente les nouveaux produits, la courge musquée, des pommes de terre, des patates douces et du navet pelé et coupé. Donc, pour encourager les gens à manger plus de légumes.
Oui, des légumes en plus qui ne sont pas à la base hyper sexy, là, le navet, tout ça, mais puis, de savoir comment les apprêter.
C'est ça. Puis souvent, la courge, en fait, moi, je m'achète une courge différente à chaque semaine là, pendant la saison hivernale. Ouais. Puis souvent, bon, moi, ça ne me dérange pas de la peler, mais ça peut être un frein. Ouais. Tu sais, si avec les enfants, tout ça, tu sais, si c'est le frein, ça prend du temps. Couper ou peler la courge, ben si ça peut encourager les gens à manger plus de courge ou plus de navets, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Donc, c'est de ça qu'on va parler à la conférence. Sinon, dans les autres, au niveau de l'animation, il y a l'organisme Jeune Pousse qui organise un circuit Les Aventuriers du goût, donc toujours dans l'optique de découvrir, faire un peu stimuler les sens des tout-petits, mais des adultes aussi, parce que des fois, c'est sûr que le public de l'Expo Manger Santé est quand même un public averti, très conscient, puis probablement un public qui a moins peur des nouveautés ou d'aller voir ailleurs dans leur habitude alimentaire. Donc, c'est très intéressant au niveau de stimuler les enfants, au niveau du goût, essayer des nouvelles choses, ne pas avoir peur de goûter. Mais des fois, la peur des enfants, ça vient souvent des parents aussi. Là.
Ça pourrait être le sujet d'une autre chronique intéressante. Et côté conférence, l'offre est hyper diversifiée. Ouais. Autant les bienfaits du yoga pour la digestion, la santé bucco-dentaire avec un dentiste et les produits naturels, la bouffe végane, bien sûr, là, qui continue à piquer la curiosité beaucoup, de plus en plus. Il y en a pour tous les goûts. Vous allez citer, j'imagine déjà, là, vous avez votre marqueur sur certaines dates et heures.
Oui, puis en fait, sur le jury aussi du concours amateur de cuisine. Donc, j'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de goûter aux recettes des participants. Ça va être super intéressant. Ça, c'est samedi à 11h. Donc, ça va être intéressant si les gens veulent venir voir ça, les voir à l'œuvre. Ça va être inspirant, en tout cas. Donc, c'est vraiment des candidats prometteurs. Ça va être chouette.
C'est au Palais des Congrès. L'entrée est 13 $ pour un adulte. Est-ce que là-bas, il faut se prévoir un petit budget si on veut acheter des trucs, Catherine, rapidement?
Oui, on peut goûter déjà. Puis souvent, il y a des rabais qui sont offerts sur les produits. Oh. Donc, on peut sauver un petit peu comme ça.
Super. Et puis, on ne mange pas trop avant d'y aller pour se garder de la place afin de pouvoir goûter.
Voilà,
oui. Catherine Lefebvre, vous êtes nutritionniste et auteure. Et puis, on peut vous retrouver du côté de l'Expo Manger Santé et Vivre Vert le 21 samedi lors de votre conférence. Et puis, expomangersanté.com ou catlefebvre.com. Marianne Paquette au micro, merci d'avoir été là. Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Nous, on se retrouve demain, même heure, même poste. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.